On vous embarque.
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 Culture.
On y était.
Concert.
On y était.
Sortie.
On y était.
Spectacle.
On y était.
Festival.
On y était.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
On vous embarque.
Winnie l'ourson n'est pas venu ce jour-là, mais il aurait vraiment apprécié, comme vous. Je vous parle de la miellerie en fête qui a eu lieu début août à Saint-Georges-de-Rex. On vous embarque à la découverte de la miellerie des butineuses vagabondes où l'apiculteur Guillaume Ajoré assure la visite de ces lieux. Commençons d'abord par un petit tour de marché gourmand à la rencontre de ses visiteurs et producteurs locaux. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Alors, on fait son petit tour ?
Eh bien oui, on va faire un petit tour traditionnel, marcher à la miellerie. Super, le temps n'est pas là, mais bon, les commerçants y sont, c'est le principal.
Et vous aussi ?
Et nous aussi, et on compte bien y rester un peu plus longtemps encore pour manger. Il y a un petit repas sympa à midi, voilà.
Qu'est-ce que vous appréciez dans ce genre d'événement ?
Bah déjà, les produits naturels, sains, hein, aussi bien de la viande, le porc et tout, tous les commerçants bio. On aime bien, nous on est pour ce genre de petit commerce et on continue et on espère que ça perdurera parce que c'est très très bien.
Vous venez chaque année ?
Oui, oui, oui.
Et vous êtes du coin ?
Non, on habite Coulon nous, mais on fait tous les petits marchés aux alentours, marchés sur l'eau et tout, toutes les petites fêtes qui se trouvent là. Hier soir on était à Coulon à la laiterie, c'est sympa. Enfin. Et on tient à ce que ça marche, donc on vient. Bonne journée !
Bonne journée !
Ça c'est un gros ailier. Fruits blancs.
Ah, des groseilliers macro ?
Oui.
D'accord.
C'est ça. Là, vous avez des spagons.
Mmh. Ouais.
De la marjolaine. Vous pouvez la toucher. C'est une merveillonnée, celle-ci.
Et ça, c'est quoi, cette plante jaune ?
Oui, alors la pauvre, elle est un peu chétive. C'est du calendula.
Ah oui.
Alors, elle attend que d'être...
Ils font de l'huile, on fait de l'huile avec ça.
Oui, 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 en fait, on...
Il y a des odeurs...
variées.
Ouais, c'est tout...
Et là, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est l'angélique.
Ouais.
Ah, ça a des feuilles. Ah, mais j'aurais pas vu des feuilles comme ça.
Mmh. Bah si.
Alors après, elle va s'étendre et dans un an, elle va...
Parce que ça fait une espèce de grosse rondelle, là.
Bah, l'année prochaine, ouais.
C'est la même chose.
Ça, c'est la marjolaine. Allez-y, touchez-la.
Au jardin, là, on en a de la sauvage, l'angélique.
Et là, on a un petit piment jaune.
Un piment ?
Ouais, c'est du piment. Ouais. Un peu tardif, mais... Et là, avec un calanchoé ici. Là, après, c'est plus
ouais,
un
ouais.
Bras, bien sûr.
Oui, là,
les petits aloés.
Alors, ça, c'est un calanchoé. Ah, comme ce qu'on voit.
Non, alors c'est... Alors,
ça fleurit, ça ?
Oui, bah, en fait, il est déjà en fleurs.
Ah, c'est ça.
Vous voyez ? Alors bon, lui, il s'est fait un peu manger. Il y en avait deux, normalement.
Des escargots.
Et oui. J'ai récupéré une espèce de limace ce matin.
Ah, il faut bien qu'il mange aussi, alors il faut être réaliste.
Hein. Alors bon, et du coup...
Ça, c'est original.
Nous, c'est les lièvres qui nous mangent tous nos légumes.
Ah ouais, ouais. Et donc, du coup, bah, là, tout ce qui va tomber, là, cette graine, bah, ça va repousser.
Ça
alors ça
graines,
pousse...
Voilà,
je me demande si ça va pas... Regardez, ça commence déjà à pousser là.
Vous voyez, on voit des
ah oui, oui, je vois. Ah, il y en a plein.
On va en mettre de la sarriette.
Ah ouais, la sarriette, bah là, ça vous fait une espèce de...
Écoutez, ça se passe plutôt bien. Les gens arrivent tranquillement, malgré la pluie. Mais l'ambiance est quand même super chouette, malgré tout. Donc, c'est super. On est content de se retrouver. Il y a les visites de la miellerie. Entre producteurs, on se connaît tous, ouais. On est habitués à faire un peu les marchés ensemble. Ouais, 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 tous. Je vérifie en même temps.
Bon. Comment ça va, Nini Vani, aujourd'hui ?
Très bien, très très bien. Je suis contente d'être là, en fait. Je l'avais déjà fait l'année dernière, ce petit marché, et c'est bien agréable. Convivial, l'endroit est sympa, la nature. Et puis voilà, on se connaît tous, c'est très sympa, en fait. Voilà.
Bon, alors, qu'est-ce que vous avez sur votre stand aujourd'hui ?
Alors, beaucoup de choses, tout un assortiment de cookies, de biscuits, d'amaretti. Et puis aussi plein de bons desserts pour ce midi, avec des crumbles aux fruits, des brookies, des brownies, des moelleux sans gluten, enfin voilà, tout un tas de choses. Comme... En plus, voilà, tout est fait maison et avec des ingrédients bio, donc que du bon.
Bonjour, vous appelez comment ?
Cathy.
Vous faites quoi ici, au potager mignon ?
Aujourd'hui, on vend nos légumes, donc le potager mignon, c'est une ferme en maraîchage diversifié, une ferme biologique sur Prin-d'Erançon. Pas très loin. Nous, sur la ferme, on fait pas de marché hebdomadaire, mais après, on s'est déjà côtoyé sur d'autres événements, oui. Entièrement bio, oui. L'étal est très coloré, puisqu'on a une grande variété de tomates anciennes. On a également des aubergines, donc tous les légumes hein, d'été, courgettes, on a des magnifiques salades. Voilà, sur de la variété ancienne, du coup, plein de couleurs et plein de formes assez originales et du goût, bien sûr.
Ça, c'est primordial. Hein.
C'est primordial.
Chez un primeur.
Voilà, tout est dit. On a du basilic. On a deux sortes de basilic aujourd'hui. Basilic cannelle et le basilic grand vert.
Cannelle et grand vert ?
Exactement, oui. On nous retrouve sur la ferme 3 jours par semaine. Donc le mercredi, le vendredi et le samedi matin. Et puis après, on livre quelques amaps localement. Donc coursons, souchés et coulons et d'autres aussi. Le site internet, du coup, c'est www.aupotagermignon.bio.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour Sébastien.
Bonjour. Toujours présente. Oui, oui. Voilà, c'est la deuxième année. La première année, il y avait un peu plus de soleil. Bon, cette année, ça va venir. Donc, on est toujours là. Voilà, vente de volailles et puis agneaux pour aujourd'hui. Tout fonctionne quand c'est bon. Et tout est bon. Voilà. Et puis, il y a le petit repas à midi, là, à partir de midi, avec nos saucisses de volailles, justement, à déguster.
Moi, je viens donner un coup de main à Sébastien aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Voilà, j'ai rien de spécial à... Moi, je ne produis pas grand-chose à vendre, donc je viens de lui donner un coup de main, voilà. Voisin, ami et cousin aussi. Je vends les produits qu'il fabrique sur la ferme du Préduri. Tout ce qui est à base de volaille, saucisses, émincées, tout ça. Et puis aussi les merguez d'agneaux, de moutons, voilà.
Tes consommateurs, tes clients ?
Bah oui, bien sûr. Tout est bon. Les saucisses de poulet façon Toulouse, elles sont très bonnes. Et c'est la saison en plus. Après, c'est super simple en fait, parce que tout ce qui est, par exemple la volaille, les émincés ou les saucisses, bah, y a juste, on ouvre le paquet, hop, on met dans la poêle et c'est super pratique. Voilà, c'est vite cuit, vite prêt, à n'importe quelle saison. Cette saison, c'est le barbecue, mais l'hiver, c'est dans la poêle et puis voilà. Par exemple, les émincés au curry, là, sont très bons, ou alors les saucisses avec des petits légumes que j'essaye d'acheter aux voisins. Là, il y a deux producteurs de légumes aujourd'hui, donc voilà, il y a le choix.
Bonjour mesdames.
Bonjour madame. Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez acheté là ?
Deux colis de très bons cochons, de très bonnes saucisses et des bonnes grillades.
Oh là là là, mais il y en a un petit paquet quand même, hein ?
Ça fait beaucoup ?
Bah je sais pas, vous êtes combien ?
Là, on part dans le Gers, et que là-bas, il n'y a que du canard. Mal élevé, en plus. Et là, je viens de passer une commande de grands travers de porc, ils sont super. Ah oui, on se régale. Nombreux dans une grande table, on va bien se régaler. Et on a un bon cuisseau.
Bonjour madame. C'est super, super. Il y a plein de beaux commerçants, de beaux produits. Puis ça fait plaisir d'en voir des marchés régionaux un petit peu après l'explosion de la mauvaise bouffe, d'avoir un peu de trucs qui reviennent. Voilà. Là, en ce moment, là, tous les légumes de saison, là, voilà, les tomates, les haricots, manger moins de viande, plus de légumes, c'est une très belle saison pour ça.
Bah, les gens, ils apprécient de venir ici, vous savez pourquoi ?
La buvette et puis les repas faits avec la nourriture des producteurs. C'est des bonnes initiatives. Bah, j'habite à Arsay, donc pas très loin, et puis on est en train de remonter aussi un marché comme ça, hebdomadaire, avec que des producteurs bio locaux. Donc je fais un petit tour pour essayer de, si je peux en trouver, qui serait prêt à revenir le samedi matin pour étoffer le marché, voilà.
Bonjour, on produit avec mon ami Greg des légumes divers et variés sur le marché d'Arsay le samedi matin. Et là, exceptionnellement, aujourd'hui, on vient à la miellerie de Guillaume pour le petit marché de la miellerie annuelle. Oh, bah déjà, Saint-Georges, c'est ma commune d'origine. Voilà, entre producteurs...
Vous venez d'acheter quoi, là ?
Je suis de passage, des haricots verts, des bons haricots verts.
Est-ce qu'il est bon, ce miel ?
Très bon. Avec le choix qu'il y a, on essaye de trouver le bon miel.
Et lequel vous avez goûté ?
La bourdaine. J'adore le miel. Bah pour le coup, c'est un peu subtil, hein, parce que c'est une fleur qui est c'est délicat. Et puis le goût, ouais, c'est bon. Ouais. Je pense que ça va être la bourdaine.
Ouais, c'est un miel puissant qui s'impose. Hein. Moi, je les appelle les miels de caractère. Parce que ça s'affirme. Là. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas quand un miel s'impose autant. Et le sommet, c'est le sarrasin. Très fort, et là ça rajoute une amertume, c'est presque tourbeux. Donc, ça c'est pour vraiment goûter parce que c'est dur, tout le monde n'aime pas. Les châtaigniers forêts, ils ont beaucoup de succès en général, même ils ont souvent pas assez de production par rapport à la demande.
Je vais prendre
châtaignier
et bourdaine.
Un châtaignier et bourdaine en 500
Bonjour, il y a même un bar, il y a même quoi boire et de quoi manger. Je travaille à la Garette.
Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ?
Le miel. Et puis les gens autour, le cadre, et puis le marché. C'est champêtre, c'est agréable, c'est calme et détendu. Ah, ça, c'est madame qui mange du miel. Moi, j'en mange pas beaucoup. C'est madame. Je crois qu'il y a de l'acacia qu'elle aime bien. Il y a aussi miel de printemps s'il en reste. Du dur, du mou et puis des bonbons pour la petite.
Bonjour Manoï.
Bonjour Pigouille Radio. Ça va super, il pleut plus. Donc le temps s'est levé. Et, non, il y a plein de monde. C'est super l'ambiance à la miellerie de Saint-Georges. Et, on est très bien accueillis, c'est super.
Pimpompin, ça c'est ton nom d'artiste boulanger ?
Voilà, Pimpompin, ça, c'était une évidence, ça sonne bien, Pimpompin, tout le monde s'en souvient et c'est rigolo, quoi, c'est un peu l'urgence du pain. Voilà, quoi. La particularité de mon pain déjà, c'est qu'il est bio, local, c'est des farines locales, il est fait au levain naturel. Au feu de bois, bien sûr. Oh, bien sûr, c'est pas non, une c'est évidence. Oui, voilà. Quoi. Et après, bah, j'ai plusieurs sortes de pains. J'ai 7 ou 8 pains différents. Ça va du sarrasin riz au petit épeautre, des blés sans gluten. Et après, il y a les pains plus classiques. Ça du froment aux graines, au seigle. Puis j'en passe certainement. Ça va de 2,50 les 500 grammes à 7 euros le plus cher le kilo. 2,50, ça sera le semi-complet, le froment. Le seigle est à 3 euros le petit. Et après, ben, en 7 euros, c'est le petit épeautre et les sarrasins riz. En kilo, ça reste abordable, c'est l'idée.
Du local, du bio et à un prix correct.
C'est une politique que ça reste abordable pour tout le monde. Quoi.
Pimpompin.
On me retrouve au marché d'Arcet tous les samedis matins. Et après, sur commande, au bar Assaut La Pigouille à Arcet, le mercredi et le vendredi. Le mercredi également, au bar associatif chez Alfred à Aziré, à côté de Benet. En vrai, le mercredi, je le laisse en dépôt à La Pigouille. Par contre, je suis présent à Aziré.
Tu te déplaces dans nos communes, voilà. C'est chouette.
Voilà, et bientôt, je vais avoir un four mobile où je ferai des petits événements, des pizzas, des pains, des cuissons en direct. À partir de après la Toussaint, ça va arriver, voilà. Quand vous entendrez pain au loin, c'est que j'arriverai dans vos contrées. Il y aura un camion et une remorque derrière.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame. On habite à côté nous.
Mais sinon on vient de temps en temps quand il y a des animations, des fêtes, comme ça.
Vous traversez là, c'est notre maison, c'est la première là-bas à 300 mètres.
C'est accueillant, c'est parfait. Là j'ai acheté du fromage, des œufs, j'ai payé mon repas.
Ah, bonjour madame.
Vous êtes producteur avec votre épouse ?
Ça se situe au Grand Jau. Le Jau, comme le coq en patois. La ferme du Grand Jau se trouve donc à la sortie de Saint-Hilaire, en direction d'Arcet.
Il me reste du frais cendré ou de l'entre-deux cendré, que je peux ressortir. Du frais basilic capucine, du jardin, du frais nature. Et après, affiné, crémeux ou non crémeux. Et de la faisselle.
En tout cas, il y a ce choix, cette diversité.
T'en voulais du grain ?
Ouais, j'aime bien.
Ah bon ?
C'est là qu'il y a le goût.
Hein ?
C'est là qu'il y a le goût.
Oh.
Tout le goût est dans le gras.
Oh.
Ah, bah, si, ouais, non, mais ça, c'est les cochons qu'on élève en un an, ça.
Je voulais des côtes d'échine.
Alors, vous venez à ce petit marché, là, c'est sympa ?
Oui, très, 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 très sympa. Oui, on va même déjeuner là. Très, très sympa.
Bonjour.
Vous avez bien mangé ?
C'est très bon. Et des saucisses, de la ratatouille et des frites.
Bientôt, à Vitou.
Bonjour Romain.
Bonjour. On est basé à Saint-Georges-de-Rex. Je suis à la troisième génération sur la ferme à Saint-Georges-de-Rex. Donc mon père a démarré la vente directe en fait sur la ferme avec l'élevage de maraîchine en 98. Et moi je me suis installé en 2017 sur la ferme avec l'élevage de cochons. Et on a démarré la vente directe de cochons pour compléter la vente directe en bovin. C'est dans mon ADN, depuis plusieurs années je travaille dans le secteur agricole. Et en fait en 2017, j'étais prêt et je suis venu rejoindre mon père sur la ferme. On est deux sur la ferme maintenant. Il y a du travail pour les deux. Les avantages aujourd'hui avec la vente directe, c'est la diversité aujourd'hui de nos productions. On est sur du céréal, on est sur du bovin, on est sur du porcin, on fait de la charcuterie et de la vente. Donc ça permet une diversité au niveau du travail et le contact avec les gens au quotidien. On a toute une partie de produits transformés. Aujourd'hui, je travaille avec deux charcutiers qui travaillent avec moi. Donc on a toute une partie de produits transformés et une partie en viande brute. Donc aujourd'hui, on a toute une partie charcuterie sans conservateur, sans sel nitrité. Tout est fait sur l'exploitation avec les deux charcutiers. Et après, on a une partie, tout ce qui est viande brute, côte, rôti, tout ce qu'on peut retrouver dans le porc et aussi bien dans le bovin. une clientèle qui est plutôt locale, on va dire dans les villages aux alentours, Arcé-le-Vanneau. Et on attire de plus en plus aujourd'hui dans les alentours de Niort, même voire jusqu'à La Rochelle. Ils viennent rechercher les bons produits. Beaucoup disent que c'est des produits qu'ils ont retrouvés quand ils faisaient la cuisine aux cochons, chez les grands-parents. La bonne cuisine, le bon gras. C'est vraiment la diversité aujourd'hui que je peux trouver dans mon métier. Et puis le contact avec les clients. On peut retrouver nos produits sur la ferme tous les samedis matins. On est sous les Halles de Niort aussi maintenant. C'est tout nouveau. Le jeudi, samedi, dimanche. Et sur le marché de La Rochelle aussi, le mercredi et le jeudi matin. La Rochelle Centre, juste à côté des Halles, en fait, on a une collègue qui est là-bas et qui vend nos produits. C'est pas réellement la même clientèle. Sur la clientèle à la ferme et sur Niort, on vend beaucoup plus de produits, on va dire, dits bruts, côtes, sautés, rôtis. Alors sur La Rochelle, on est beaucoup plus sur des plats cuisinés. Mais que les choses continuent, on est en train de s'associer avec les deux charcutiers et il y a le départ en retraite à la fin de l'année de mon père, donc voilà, des chamboulements au niveau de l'entreprise. Ouais. Donc j'ai les charcutiers qui vont prendre toute la partie vente et j'ai une collègue aussi qui est aujourd'hui sur la charcuterie, qui va venir travailler avec moi sur la ferme. Et puis on va chercher quelqu'un d'autre, oui, pour aider sur la partie culture.
Bonjour à tous, bienvenue pour la petite visite de la miellerie où Guillaume Marjoret va vous expliquer un peu comment ça se passe pour produire du miel, comment ça fonctionne. On pense tous savoir ce que c'est, comment ça marche, mais en fait vous allez découvrir que c'est pas si simple. C'est beaucoup plus technique qu'on pense et ça demande un travail assez important. Ouais. Donc amateur d'apiculture, tout le monde peut l'être. Mais de devenir, c'est pas si évident. Donc profitez-en, Guillaume, hein, il est là aussi pour répondre à vos questions. Profitez-en pour poser plein de questions, ça, pour comprendre, ouais, vraiment. Parce qu'on mange du miel assez souvent, mais on ne sait pas d'où comment ça se fonctionne. Et c'est pas si simple. Quand même, une des premières choses que l'homme a domestiqué, l'abeille. Donc une des premières productions humaines, c'était bien le miel. C'est pas idiot parce que c'est très sain pour la santé. Et c'est quand même un petit peu mieux que nos sucres industriels. On est un peu partout.
Bonjour à toutes et tous. Donc je m'appelle Guillaume, je suis apiculteur. Et ici, on est dans la miellerie. La miellerie, c'est notre espace de travail une bonne partie de l'année. C'est un lieu dans lequel on va venir extraire le miel de nos ruches et puis stocker le miel et mettre en pot aussi de temps en temps, faire la mise en pot pour pouvoir vendre le miel par la suite. Ça, on le verra à la fin. Il n'y a pas de secret. On est là pour ouvrir. On ouvre nos portes pleinement. Et on ne peut pas tout vous montrer en direct, mais on peut vous expliquer au maximum les choses. Quoi. Juste quelques mots pour se présenter un peu plus. La miellerie, en tout cas l'activité d'apiculteur professionnel, ça va faire 7 ans que je l'exerce. La miellerie ici, ça fait... c'est quoi? Ça fait 4 ans. Ouais, ça doit faire 4 ans, ça fait 2 ans que c'est pleinement actif ici, là où on est. On travaille à deux avec Adrien, alors qui n'est pas là ce week-end, mais qui est quand même avec nous. On travaille tous les deux, on partage en fait nos ruches à tous les deux, et donc on travaille ensemble de A à Z toute l'année. Et on partage après le miel que l'on fait tous les deux. Et on embauche Maxime qui doit pas être trop loin, encore en train de manger je pense. Max qui est saisonnier, qui travaille avec nous de mars à septembre quand c'est le plein boom vraiment sur les ruches et qu'il faut abattre pas mal de boulot en peu de temps. On travaille avec 450 à 500 ruches en production de miel. Ce que vous avez devant vous, c'est une ruche classique, c'est une Dadan, Dadan c'est le format, Dadan c'est un industriel américain qui l'a inventé il y a une centaine d'années, qu'on utilise beaucoup en France, en Europe, un peu partout dans le monde. Il en existe plusieurs modèles évidemment, mais ça c'est un modèle qui est très commun et facile à utiliser. Donc c'est une ruche en bois dans laquelle on retrouve 10 cadres. Donc des cadres en bois, tout simple sur lequel on vient fixer, on vient apposer une feuille de cire. Donc c'est de la cire d'abeille évidemment. Et c'est ce qu'on appelle une cire gaufrée qui est légèrement qui est alvéolée. Alors l'alvéole, la forme de l'alvéole, ça c'est l'abeille qui naturellement la fait. Elle n'a pas besoin de nous hein, pour le faire. Si elle étire un rayon de cire naturellement dans une cheminée, dans un tronc d'arbre
ou sur une branche, elle va former cet alvéole. Mais effectivement, nous, avec le cirier, on lui prédessine la feuille de cire et la petite alvéole pour que ce soit plus facile et que ça aille plus vite à étirer dans le temps. C'est juste ça. Donc ça, c'est un cadre neuf qui n'a encore jamais servi dans une ruche. La feuille de cire, ensuite, la veille, elle va étirer les alvéoles. Elle va former les alvéoles, les petites cellules comme celle-ci, dans lesquelles elle va pouvoir stocker du miel, stocker du pollen, et aussi dans lesquelles, surtout, la reine va pouvoir venir pondre ses œufs tous les jours pendant quasiment toute l'année. Donc la ruche, c'est cet élément-là. Une colonie d'abeilles, c'est une reine, une seule reine. On peut y en avoir deux, c'est très très rare, ça existe, mais c'est extrêmement rare. C'est une reine qui vit de 2 à 4 ans à peu près. La reine, elle a une durée de vie de quelques années. Et puis, c'est des milliers d'ouvrières. Les ouvrières sont ses filles, uniquement ses filles à la reine. Et la reine, son seul rôle, quasiment, c'est de pondre des œufs. C'est une pondeuse. C'est pas une reine, c'est une pondeuse. Elle dirige pas grand-chose dans la ruche. Ce sont bien ses filles qui dirigent la colonie et qui la gèrent, finalement. La reine, elle pond. Elle pond de février jusqu'à novembre. Normalement, décembre, janvier, il fait suffisamment froid et les jours sont très courts. Et normalement, elle est censée se stopper. La ponte se stoppe quelques semaines. C'est rarement le cas parce qu'on a quand même des mois de décembre et janvier qui sont très doux. Donc la reine a tendance à pondre un peu toute l'année. Mais globalement, en hiver, on a une colonie qui est en stand-by, qui est quand même active, mais c'est très très doux. Et la colonie est petite. L'hiver, c'est juste une petite grappe d'abeilles, gros comme un ballon de hand à peu près, ou un petit peu plus en fonction, qui va se maintenir à une température... j'ai plus en tête les températures exactes. En tout cas, elles vont se tenir à une petite température constante pour que la reine subsiste aussi, survive. Elles vont utiliser leurs réserves qu'elles ont dans la ruche, qu'elles auront fait l'été d'avant, du miel, du pollen. Et puis elles vont attendre tranquillement que février et surtout le mois de mars arrivent pour pouvoir ensuite redémarrer vraiment une activité plus forte. Ça, c'est cette période de février-mars où la reine va se remettre à pondre vraiment et de plus en plus pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes abeilles qui émergent dans la ruche. Et petit à petit, on passe d'un ballon de hand à une caisse comme celle-ci qui normalement dégueule d'abeilles au mois d'avril. Et en fait, c'est calé sur la durée du jour, c'est calé sur les températures, et puis du coup, bah, tout ça, c'est en corrélation avec les fleurs qui sont disponibles ou pas, qui sont présentes ou pas dans l'environnement, et donc de la ressource qui est disponible ou pas dans l'environnement. Donc l'hiver, c'est très calme parce qu'il n'y a pas de fleurs, il fait froid. Et à partir de mars-avril, c'est l'effervescence, c'est le gros boom parce qu'il fait plus doux et qu'il y a plein de fleurs à disposition. Ça, c'est l'explosion, c'est le printemps, c'est avril, mai, juin, et puis après, début juillet, ben, les jours raccourcissent, nous on le voit pas trop, elle le voit, ça commence déjà un peu à retomber. Et puis mi-août, fin août, là où on arrive, les colonies vont commencer à se réduire tout doucement. Et puis la reine pond de moins en moins pour attaquer les mois de septembre et d'octobre, et puis entamer l'hivernage. C'est pas une hivernation, mais c'est quand même un stand-by hivernal qui se présente. Ça va commencer dans pas longtemps. Sauf si septembre est très chaud, mais même s'il fait très chaud en septembre, c'est pas trop le cas. Le gros du travail, nous, avec les abeilles, c'est elles qui font le boulot, mais on les suit quand même. Et ben, c'est forcément à partir du printemps, donc c'est pour ça, mi-mars, fin mars, on commence vraiment à être actif sur les ruches, à essayer de suivre cette dynamique qui prend de l'ampleur chaque jour, et puis de profiter de cette effervescence et de ces paquets d'abeilles qui sont monstrueux pour après monter du miel dans les hausses et nous récupérer le miel ensuite et l'extraire. Et puis l'activité, elle se ralentit principalement début octobre où normalement on a réussi à faire tout ce qu'on voulait pour la mise en hivernage des ruches et après on les laisse tranquilles. On fait des passages mais c'est assez succinct et on n'y fait pas grand chose. On fait de l'élevage de rennes pour notre propre renouvellement de cheptel. On est éleveur de rennes, mais on fait pas d'élevage de rennes pour la vente. Ça, c'est ce qui se fait pas mal aussi. Nous, notre cœur de production, c'est le miel. Voilà. On s'arrange pour que nos ruches fassent du miel, qu'on récolte, qu'on extrait, et qu'ensuite on vend en gros ou en pot, peu importe. Mais en tout cas, c'est la production de miel l'activité principale. La production de miel, oui, on s'arrange pour essayer de faire 5-6 miels différents sur la période d'avril à août. Donc c'est une courte période quand même. Et on est sur des mielées, donc ici dans notre environnement, on va être principalement sur les colzas, les aubépines au mois d'avril. C'est la première mielée de la saison pour nous, pour les abeilles. Et après, on va en transhumer une partie, notamment en Périgord, pour aller faire d'autres miels, comme le miel d'acacia, le miel de châtaignier, du tout de fleurs. Et ensuite, début juillet, on arrive assez vite début juillet, on va rapatrier toutes les ruches ici pour être sur les tournesols, les sarrasins, s'il y en a. Voilà.
Et du coup, la mielée, là, elle s'est finie. Il y a déjà deux bonnes semaines. Et du coup, à partir de lundi, on extrait le dernier miel de la saison pour nous. Certains vont faire des miels de bruyère dans les Landes, tout ça. Ça va pousser en septembre. Après, nous, on ne va pas sur ces zones-là pour l'instant. Donc voilà, la dernière mielée, pour nous, c'est le mois d'août. Déplacer les ruches pour aller dans d'autres endroits, pour d'autres fleurs, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Vous avez une ruche ici. On va juste la refermer, histoire de visualiser. Elle est telle qu'elle. Les ruches, on les dispose sur des ruchers, des emplacements où on installe les ruches. Sur un rucher, on met de 24 à 30 ruches à peu près, comme celle-ci. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, ça va dépendre. Mais en gros, on est sur 24-28 ruches. Et on les installe ici, dans l'environnement proche Saint-Georges, sur un rayon de 15 km. Il y a à peu près 20-25 emplacements qui permettent de disposer les 500-600 boîtes qu'on a. Et puis après, en Dordogne, on en a 4-5, quelque chose comme ça, ou 5-6. Donc on ne peut pas tout emmener pour l'instant. L'idée, c'est d'en emmener un peu plus. Mais voilà, on les dispose comme ça. Là, en mode normal, en fait, les abeilles passent ici, là, sur la petite planche d'envol. Et l'entrée, elle est juste en dessous. Et donc la planche d'envol, c'est cette zone-là où les butineuses décollent et puis atterrissent quand elles reviennent de leur visite de fleurs. Ça, c'est les petites grilles d'entrée. Pour les déplacer, par exemple, d'ici à Sarlat, on va attendre que la nuit tombe pour que les abeilles soient toutes rentrées. C'est bien le soleil qui les fait sortir ou rentrer dans la ruche. On attend que la soirée arrive et que les abeilles soient bien rentrées. On va venir juste fermer l'entrée de la ruche avec les petites grilles. Là, les abeilles sont toutes cloisonnées à l'intérieur. Une fois que c'est le cas, on les prend, on les charge sur des camions et des remorques. On met des sangles et puis on s'en va. Et après, au petit matin, on arrive sur place, on les remet en position et puis on ouvre les grilles et puis c'est reparti. En fait, c'est des GPS, les petites abeilles. Elles, très rapidement, au bout d'une demi-heure, une heure déjà, les premières butineuses vont revenir avec du pollen ou du nectar. S'il fait beau et qu'il y a des fleurs, elle repère tout de suite. Et des fois, je sais pas, au bout d'une petite semaine, il y a déjà du miel qui est monté dans l'ours, quoi. Quand ça va bien. Ouais. Elle se repère très très facilement.
Et on sait comment elle se repère ?
L'axe, l'orientation par rapport au soleil, sa hauteur. Et après, j'arrive par rapport à ça à estimer des distances. Elles vont pouvoir communiquer entre elles après, la fameuse danse des abeilles.
Un éthologue.
Ouais.
Qui a eu un prix Nobel.
Carl von Frisch.
Voilà.
Ouais. C'est lui qui a mis en avant cette danse, la danse en 8.
Ouais.
La danse des abeilles. Et effectivement, on le voit quand c'est l'effervescence. Par exemple, du jour au lendemain, il y a plein de fleurs d'un coup d'un seul. On peut prendre l'exemple du tournesol ici, qu'on le voit. Ça fleurit d'un coup. Les abeilles, on va le voir sur les cadres, les butineuses qui prospectent tout le temps dans ce qui se passe, elles vont repérer cette zone qui fleurit d'un coup d'un seul, elles vont transmettre l'information à toutes leurs sœurs à l'intérieur de la ruche. Et effectivement, elles font des danses, elles s'agitent, elles vrombissent comme ça aussi, ça veut dire qu'il y a une mielée, qu'il se passe quelque chose de fort dans l'environnement et qu'il faut y aller, quoi, faut pas traîner. Et après, avec la danse, elles vont réussir à indiquer aux autres à peu près à quelle orientation il faut aller par rapport au soleil et à quelle distance à peu près de la ruche. Ouais. Donc elles repèrent assez facilement comme ça. Ça va très vite. Ouais, 24 heures, et c'est bon, elles vont toutes là-bas, facile. Quoi.
Retirer le miel sur place ou bien ici ?
Non. Toute l'extraction va se faire ici.
Oui.
Après, quand on retourne sur place, on pourra aller chercher les hausses de miel. Mais en tout cas, on n'a pas de point d'extraction là-bas ou de camion ou je sais pas quoi. Toute la miellerie est vraiment ici. On ramène les hausses et on extrait ici après.
La cire, elle se débrouille avec ça ou elles en fabriquent en plus ?
Alors la cire, ce sont bien elles qui les fabriquent. Là, c'est la même chose sur un plus petit cadre. Dans la hausse, on a la feuille de cire. C'est grâce au nectar. Donc il faut quand même qu'il y ait de la ressource dans l'environnement. Il faut qu'il y ait des fleurs et qu'il y ait du nectar. Le nectar, c'est beaucoup d'eau et un peu de sucre. C'est ce que sécrètent les fleurs pour attirer les pollinisateurs. Comme les abeilles domestiques, mais tous les autres aussi. C'est le carburant pour l'abeille, c'est son essence, c'est son diesel l'abeille, quoi. Elle a besoin de ça pour voler. Mais en tout cas, c'est aussi la ressource, le nectar, le jus liquide, qui va permettre aux jeunes abeilles de sécréter de la cire à partir de ça.
Ah oui, donc elle transforme
le
nectar en cire, qui est quand même un corps gras.
Oui, corps gras.
Et donc
elles ont une glande spécifique, seulement les jeunes abeilles dans leurs premiers jours de vie, qui est en fonctionnement pour pouvoir faire cette
cire. Ah oui.
Ouais. Et donc ça étire l'alvéole comme ça.
Fabrique.
Mais il leur faut de l'énergie, quoi. Il faut du nectar. Il faut quand même qu'il y ait de la ressource dans l'environnement. Sinon, ça reste comme ça. Quand c'est très sec et qu'il ne se passe pas grand-chose, si on le met trop tard, ça va rester comme ça. Elles ne vont pas réussir à les tirer, quoi.
D'accord.
L'abeille domestique, elle fait du miel, les abeilles sauvages, non. On l'appelle domestique parce qu'on s'en sert, mais elle n'est pas domestiquée. On sait faire plein de choses et plein de techniques d'élevage, surtout aujourd'hui avec l'abeille à miel, l'abeille mellifère. On l'appelle domestique, mais c'est quand même elle qui décide ce qu'elle fait, quoi. En tout cas, c'est bien l'abeille, c'est cette abeille-là, mellifère, qui fait du miel. L'abeille mellifère à miel, quoi. C'est ça. Les autres sont des petites colonies, voire des abeilles solitaires. Les abeilles sauvages, c'est souvent très solitaire et c'est souvent très spécifique à une floraison sur une espèce de fleur à un moment donné, si les conditions météo sont bonnes depuis des semaines et tout ça. C'est vraiment hyper spécifique après. L'abeille, elle est là, elle vit en colonie et puis dès qu'elle a la possibilité, elle va aller sur une fleur, mais elle peut aller sur une autre le lendemain. Enfin, c'est un peu plus large, quoi. Et elle monte le miel. Pour monter du miel, si on est début avril, hein, on est largement en sortie d'hivernage. Les abeilles, les ruches, elles sont normalement, on est censé dégueuler d'abeilles, quoi. La reine, elle pond énormément depuis début mars et donc ça commence à grossir d'abeilles. Là, elles sont en pleine bourre, donc nous, on va en profiter pour potentiellement faire monter du miel, quoi. Juste quelques petits outils qu'on utilise. Ça, c'est une grille à reine. En plastique ou en métal, en inox, peu importe. La grille à reine, c'est parce que le passage va permettre aux abeilles, aux ouvrières de passer à travers. Mais la reine qui est plus grosse, elle, qui a un plus gros abdomen, elle va pas pouvoir passer. L'idée, c'est qu'elle ne puisse pas monter dans l'élément qu'on va rajouter. Le top, c'est qu'elle reste en bas et qu'elle fasse bien son couvain, ses œufs, etc. en bas dans la ruche, mais dans la hausse de miel, dans la hausse, que les ouvrières ne puissent monter que du miel, quoi. Et nous, comme ça, on ramasse que du miel. Donc quand c'est l'effervescence, on met la grille à reine et on rajoute une première hausse vide. La hausse, hein, comme je vous montrais tout à l'heure, c'est le même principe qu'en bas, hein. C'est juste que c'est la moitié en hauteur par rapport au corps de ruche. Et en fait, le fait d'être en vertical comme ça, hein, l'abeille, elle adore ça. Plus elle peut monter haut, mieux elle se porte. Et donc elle va monter le miel qu'elle va aller chercher dans l'environnement. En fait, l'abeille, elle est capable de monter des kilos et des kilos de miel, mais elle n'en aura jamais besoin pour passer l'hiver. Elle n'aura jamais besoin d'autant pour subsister, pour survivre, même pendant plusieurs hivers, c'est vraiment ça. L'abeille domestique, tant qu'elle peut amasser du nectar et faire du miel, elle le fait. Donc s'il fait très beau, c'est humide et qu'il y a plein de fleurs, ben, ça fait du miel. Quand ça en fait pas, ben, ça en fait pas, et puis c'est tant pis pour nous. Si ça en fait beaucoup, eh ben, on empile les hausses, c'est fait pour ça, hein. Ça, c'est le côté indus qui est là. Voilà, on empile et puis elle monte. Et puis voilà, on peut faire une hausse, deux hausses, trois hausses, quatre hausses. Souvent, les floraisons, elles vont durer 2 à 3 semaines. Que ce soit en grande culture, que ce soit en forêt comme l'acacia, le châtaignier. Par exemple, l'acacia, ça va durer à peine 2 semaines. Le châtaignier, c'est pareil. Le colza, c'est pareil. Le tournesol, c'est quasiment pareil. Pendant 2 à 3 semaines, on les laisse faire le miel si elles veulent bien faire du miel et que ça se passe bien. Et on attend un petit peu qu'elle mature bien le miel, que ce soit bien du vrai miel qui est dans les hausses et pas du nectar trop frais en eau, que ce soit bien chargé en sucre. Et quand c'est prêt, on vient et on va ramasser les hausses de miel pour venir les extraire ici. Donc qu'on ait les ruches ici dans l'environnement ou qu'on les ait à 200 km, c'est le même principe. On va chercher les hausses et on les ramène ici. On leur pique le surplus de miel, on vient le mettre ici pour l'extraire.
Et vous en laissez un peu pour qu'elle passe l'hiver?
Ouais, tout ce qui se passe pour l'hiver, c'est en bas.
Ah oui.
On n'y touche pas à ça.
Et là, elle se débrouille là pour...
Normalement, elle se débrouille. Si c'est trop léger, on ajuste. Quand on va venir chercher les... Quand on va vouloir ramasser les hausses de miel qui sont prêtes à être extraites, il y a plein d'abeilles aussi avec. Donc l'idée, c'est pas de ramener toutes les butineuses ou les jeunes abeilles qui sont dans la hausse. C'est bien de les laisser dans la ruche, évidemment. Et de ramener la hausse sans abeilles qu'avec le miel. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Ce qu'on essaye de faire pas mal quand on est proche d'ici. Alors proche pourquoi ? Proche géographiquement, c'est parce que ça, cette technique-là du chasse-abeille, là, c'est une technique qui implique de passer 2 fois sur les ruches. 2 fois pendant 24 heures. Donc il faut y aller le lundi, poser les chasse-abeilles, et le lendemain, le mardi, il faut retourner sur les ruches pour ramasser les hausses et donc sortir le chasse-abeille. Donc ça va bien quand on est sur place, quand on n'est pas loin. Le chasse-abeille, là, c'est comme une nasse, c'est un pauvre losange. Il y a des tout petits bouts, des tout petits passages d'abeilles aux extrémités. Là, il y a un petit passage ici. Et puis, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va descendre la hausse du miel. On va sortir la grille. On va venir placer ça sur le corps de ruche, dans ce sens-là. On va repositionner la hausse par-dessus. Et dans la nuit, là, et le lendemain matin, la plupart des abeilles, quasiment toutes les abeilles, vont descendre pour aller se mettre au chaud là-dedans. Et s'occuper du nid à couvain et de la reine.
Elles vont quitter la hausse, elles vont passer par le petit losange qui fait un peu entonnoir, et le lendemain, elles n'arrivent pas à comprendre pour l'instant qu'il faut repasser par ces petits trous, c'est trop petit. Si on attend trop, elles comprennent, elles remontent, elles arrivent à remonter. Donc normalement, le lendemain, le mardi dans l'après-midi, quand on vient, la hausse elle est quasiment vide la veille. Là, ce qui est pratique, c'est qu'on a juste à la ramasser, à l'empiler, et puis voilà, on s'en va. C'est juste ça. Si on est au mois d'avril et jusqu'au mois de juin, on ramasse les hausses pleines, on se les stocke sur une palette, ça on l'enlève, et puis évidemment, si ça va bien et qu'il fait beau, et c'est ce qui se passe jusqu'au mois de juillet, on remet une grille, on reprend une hausse vide, et puis c'est reparti si ça veut repartir, quoi. Tac. Et là, elles sont prêtes à refaire du miel si ça se présente. C'est le but, hein. Qu'elles enchaînent le miel, quoi. C'est l'idée. Et après, là, par exemple, là, on arrive au mois d'août, c'est la dernière. On va aller chercher les hausses dans la semaine. Là, on arrête, on stoppe tout. On enlève les hausses, on les ramène ici, on fera l'extraction. Par contre, à l'intérieur, là, on est sur la fin de saison. On referme, on les laisse telles quelles. On va pas remettre de hausse. Et après, pour l'hiver, elles sont comme ça. Voilà. Un peu plus de choses, quoi. C'est 2-3 petites manips, mais ouais. Rien de plus là-dessus.
L'hiver, elles sont où?
L'hiver, elles sont toutes ici. Alors, toutes ici, pas à Saint-Georges, mais toutes sur les ruchers entre Plaine et Marais, quoi. Elles sont toutes dans, quoi. On les laisse pas. En fait, on pourrait les laisser pour l'hiver, ce serait pas gênant qu'elles soient loin. On pourrait y aller et puis se promener un peu en même temps. Mais après, au printemps, on a besoin d'être sur les ruches très régulièrement. Et puis le printemps ici, il est quand même assez doux et propice à un développement plus explosif qu'en Dordogne, par exemple. Donc on profite de ça aussi. Donc on les a toutes sous le coude février-mars pour bien les surveiller et puis profiter de ça. Ouais.
Et là, l'hiver, tu dis, tu voulais les laisser renfermer à l'intérieur?
Non. Ah. On les laisse... Non, elles sont pas fermées. Hein. La grille est juste un peu ouverte. Effectivement, on remet une grille pour réduire un peu l'entrée et éviter aux petits rongeurs de rentrer dans les ruches. Mais c'est tout. Elles sont sur les mêmes emplacements qu'en pleine saison, qu'en plein été. Mais on les laisse sans hausse, sans rien comme ça, telles qu'elles. Un peu resserrées, qu'elles passent l'hiver comme il faut.
Au chaud.
Ouais, au chaud.
Il n'y a pas de risque de transmission de maladies? Elles sont concentrées?
Ah si. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, le varroa, s'il y a des ruches qui sont très sensibles au varroa, on ne les garde pas. Après, des maladies, on n'en voit pas tant que ça, on renouvelle tellement que... si jamais c'est le cas ou si j'ai un doute, je brûle les cadres. Je garde pas. Et j'essaye pas de sauver non plus.
Ah
oui,
c'est...
Non, je fais pas dans la pitié. Pas trop. Ça, c'est ce qui me permet de faire du miel et de pas avoir de ruche malade aujourd'hui.
Si une ruche meurt... Il y a une nouvelle reine qui va venir.
Alors, il n'y a pas de ruche qui se meurt. On n'a pas le temps de les laisser se mourir, c'est pas possible. Non, on y passe souvent. Déjà, si avant qu'elle se meure, elle va moins bien. Déjà, si elle va moins bien par rapport aux 24 autres, on le voit tout de suite, on la garde pas. Si sur un rucher et sur une belle mêlée, on fait deux hausses pleines partout, et il y en a une qui fait une 0,5 hausse, enfin une demi-hausse, on la garde pas. Et non, elle nous sert à rien, elle nous prend du temps. Ouais, ça c'est... Ouais.
Qu'est-ce que tu en fais?
On tue la reine. On change la reine et on refait... Soit on la split en essaims. Quand on fait des essaims, des plus petites colonies en ruchette, on peut remonter quelques petits essaims. On mettra des nouvelles reines dedans, un peu plus tard. Mais en tout cas, la ruche, on va l'exploser en morceaux. Alors, l'exploser, c'est une façon de dire, mais on va prendre des cadres de couvain, on va répartir les abeilles dans plusieurs essaims, on va refaire des jolis essaims avec d'autres ruches qui sont en forme, on mettra des reines dedans. En tout cas, celle-là, du coup, se retrouve vide, on la ramène ici, on la chalumote et elle repartira dans le circuit plus tard. Ouais. On change la reine, souvent c'est ça. Oui. Pour essayer de relancer des nouvelles dynamiques sur les autres colonies. Ouais. Ça, si on le fait pas, je sais pas comment on le fait. Ouais. C'est chaud,
et le fait de reprendre des abeilles s'il y a une maladie pour faire.
Alors si c'est malade, on reprend pas. Hein.
Ah, vous faites ça que si c'est sain, vous êtes sûr que c'est sain.
Ouais.
Ah,
ouais. Ça reste sain, ça reste mou du genou, mais c'est pas malade.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Après, si on attend, c'est sûr que si elle vivote et qu'on laisse comme ça, ou pendant 3-4 mois, on n'y fait pas attention, on se dit oh, ça va aller, là c'est sûr, ça va devenir complètement malade, bourré de varroa, ça va se transmettre.
Ah ouais.
Après, voilà, on fait de l'élevage et puis on y est tous les jours d'avril jusqu'à septembre. S'il y en a une qui échappe, ça peut, mais Des fois, ça arrive d'un coup d'un seul. Au mois de juin, il y en a une, elle est vraiment pas caillole. Puis d'un coup d'un seul, puis le varroa va prendre le dessus. Et ouais. Oh, puis celle-là, on les vire du circuit, quoi. Ah oui.
Ouais. Pas de pitié. Tu fais comment? Mais tu non. Fais comment pour la virer du circuit?
Ah bah, soit on secoue les abeilles, mais c'est le risque, c'est de la maladie. Mais si les ruches sont à côté, moi ça me va. Si c'est assez beau, eh ben on fait les petits essaims. On split la ruche, on en fait des petits essaims avec d'autres abeilles qui sont en forme. On remettra des reines dans ces ruches-là. Et après, les cadres, si vraiment j'ai une suspicion de maladie ou il y a trop de varroa dans le couvain, je mets ça dans un tonneau que je boule. Ouais.
Okay. Et comment vous faites pour faire un essaim?
Un essaim? T'as, au printemps, on en fait plein. Un essaim, c'est tout bête. Vous avez une colonie qui fonctionne bien. C'est quand même le cas de 90% des ruches, hein. Heureusement. Ah, pour nous, en tout cas, heureusement. Vous avez des cadres de couvain, donc là où la reine pond à l'intérieur, par exemple comme celui-ci, là, qui serait en plein milieu. Vous avez du couvain, c'est-à-dire des œufs, des larves et puis des nymphes qui vont émerger, donc du jeune couvain. Vous avez plein d'abeilles dessus, des jeunes et des moins jeunes. Vous avez la reine, par exemple. Tac, la reine, on la laisse dans la ruche. On prend ce cadre avec du couvain et des jeunes abeilles, on le met dans une autre boîte, une petite ruchette, comme ce qu'il y a là-bas. On en met 3 ou 4 comme ça dans la ruchette, peu importe d'où viennent les abeilles, de plusieurs ruches, ça marche très bien. Et vous constituez une boîte, une nouvelle petite unité, avec 4 cadres d'abeilles et de couvain, sans reine, orphelin. Hop, ça y est, ça fait une nouvelle colonie, presque prête, il lui manque la reine. Elles vont chercher naturellement à en faire une, nous on va pas vouloir. On va pas vouloir ça, on va les empêcher de faire leur reine et on va leur en donner une.
Et comment vous faites pour les empêcher de faire une reine?
Ah, on castre les cellules. C'est-à-dire qu'elles vont élever, naturellement une nouvelle reine. Elles se retrouvent orphelines, quelle que soit la période de la saison. Les abeilles, elles peuvent pas vivre sans reine, sinon elles survivent pas, elles subsistent pas. Donc, quoi qu'il arrive, elles vont chercher à élever une nouvelle reine. En fait, à un stade donné, 7 jours après avoir fait l'essaim, en fait, c'est juste le calendrier qui compte quand on fait de l'élevage, 7 jours après, on va venir dans l'essaim, on va soulever tous les cadres et on va détruire toutes les cellules royales qu'elles auront entamées pour élever une nouvelle reine. On les détruit avec le lève-cadre. On les écrase. On les castre. On castre les cellules. Une fois que ça c'est fait, on introduit une nouvelle cellule avec une reine qui va émerger le lendemain ou le surlendemain. Et là, on n'a pas 100% de réussite, on fait quand même toujours une petite perte, mais la plupart du temps, ça marche, la jeune reine qu'on leur a donnée va être acceptée, va être fécondée, et va commencer à pondre dans notre nouvel essaim.
Pourquoi pas laisser faire naturellement une autre reine?
Parce qu'on perd en efficacité. Génétiquement, on essaye de faire des... En fait, on fait de l'élevage sur des filles qui sont issues de ces de souches de sélectionneurs. Et donc les sélectionneurs, ils vont sélectionner des souches sur des critères, notamment la productivité, la douceur, l'essaimage qui est quand même bien réduit, l'essaimage naturel, nous ça nous intéresse pas trop non plus. Et du coup on fait des filles sur ces souches-là. On gagne en production. Et en efficacité de travail tous les jours sur les ruches. Donc les essaims c'est très facile à faire. Le tout c'est d'avoir des ruches qui sont en forme et que ça grouille bien d'abeilles. Vous avez un paquet d'abeilles, sauf qu'on va rajouter une reine dedans, quoi. L'essaim naturel que vous trouvez dans vos arbres ou dans vos cheminées, il vient d'une ruche comme ça. Hein. On l'appelle naturel, il vient d'une ruche. Hein. Il vient pas d'un tronc d'arbre, il n'y a quasiment plus d'essaim dans les troncs d'arbre aujourd'hui. Ça vient d'une ruche qui, en fait, au mois d'avril ou au mois de mai, est très grosse et dégueule d'abeilles vraiment. Et naturellement, ça c'est complètement naturel, les abeilles, pour se reproduire, en fait, elles vont faire de l'essaimage. La vieille reine va quitter la ruche avec une bonne partie des abeilles. Et les abeilles, en même temps, vont élever une nouvelle reine pour continuer à subsister, quoi. Donc la vieille reine s'en va, elle va coloniser un peu plus loin l'environnement, et puis elle reste sur place. Donc de une, vous avez 2 colonies. Comme nous, d'une colonie, on peut faire 3 essaims. C'est pareil. Est-ce que pareil? Sauf que les essaims, on les ramasse pas. On ne veut pas les ramasser parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas d'où vient la reine, on ne connaît pas la génétique. Si c'est bourré de varroa parce que c'est des ruches qui ne sont pas traitées, ça ne nous intéresse pas. Si c'est bourré de nosémose, de tout ce que vous voulez, on n'en veut pas non plus.
Ah oui.
Ouais, donc on ramasse pas les essaims d'abeilles.
Ces maladies là que tu parles sont dangereuses pour la santé des abeilles, mais aussi pour l'homme ou pas?
Non, 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 c'est que pour l'abeille. Elles sont toujours présentes, elles sont tout le temps là, sous-jacentes. On les distingue pas, mais si on fait des analyses, c'est sûr, on trouve tout ça.
Par contre, une colonie qui fonctionne bien et qui a une bonne dynamique et en santé, elle le fait avec et en fait, on le voit pas. Après, dès qu'il y a des petits pépins ou une colonie qui se porte moins bien, peu importe la raison, là, les maladies vont commencer à prendre le dessus. Donc, ça va pas s'arranger. Alors, si je ramasse 10 essaims dans les arbres, il y en a un qui va me faire du miel dans la saison. Et l'année d'après, il y en aura 0 sur 10. Là, si on fait des essaims nous, il y en a 8 sur 10 qui vont faire des kilos et des kilos de miel. Il y en a un, ça va pas être terrible, et il y en a un, ça va vraiment pas être terrible. On inverse les proportions.
Ouais. Et ces grilles-là, c'est celles où il y a de la propolis aussi
C'est un peu le même principe. Mais avec la propolis, ce serait beaucoup plus fin. C'est des tout petits trous qu'elles viennent boucher. Ben, elles en mettent dedans, mais les trous sont trop gros pour qu'elles bouchent en propolis. On a donc la hausse avec du miel dedans et pas d'abeilles. Ça, on les ramène ici, forcément, quoi qu'il arrive. On vient ici. Donc là, on a commencé à ramener des hausses de miel exprès pour aujourd'hui, et puis on continue dans la semaine pour finir l'extraction. Donc là, les abeilles, c'était la mielée principalement sur le tournesol au mois de juillet, qu'on va ramasser cette semaine et puis la semaine prochaine et qu'on va extraire. Et ce sera notre dernière mielée de la saison pour nous. Là, on a une hausse qui est bien bien faite, qui est bien bien pleine. Il y a des hausses qui sont un peu moins faites. Alors ça pouvait être les deuxièmes ou les troisièmes hausses, ça dépend des ruches. Il y a quand même du poids, mais vous voyez, les cadres ils sont pas gonflés de la même manière. Hein. Là c'est bien boudiné, là, ça fait des boudins, hein, c'est comme ça. Quand ça commence à faire des gros boudins comme ça, c'est que c'est bien bien rempli de miel. Bon, peu importe, de toute façon c'est lourd, même si c'est pas très rempli, c'est toujours lourd. Donc on ramène les hausses ici. Quand on les charge sur le terrain, on les met sur les palettes, et puis les palettes on les décharge ici, c'est facile. Ça c'est la pièce, on appelle ça une pièce chaude, c'est juste un espace de stockage pour les hausses. On le chauffe effectivement la plupart du temps. Pourquoi on chauffe ? Ça permet de mieux déshumidifier l'air. Le miel il est ultra sensible à capter l'eau de l'air. Et ça c'est pas très bon. Après le but c'est que le miel ce soit le plus de sucre possible et le moins d'eau possible. Il y a toujours de l'eau dedans mais ça c'est normal. En tout cas, ici, en chauffant et en déshumidifiant avec la machine qui est arrêtée pour l'instant, mais qui turbine en permanence, ça permet d'éviter que le miel capte de l'eau ici. Nous, ça nous fait un espace de stockage. C'est hyper bien. Alors, ça n'a pas trop l'impression, mais les portes de garage sont hyper efficaces. Il n'y a pas du tout de fuite, parce qu'en fait, ce qui peut être assez violent, c'est le pillage. Quand on ramasse du miel comme ça et qu'on l'entrepose dans une pièce, si je laisse les portes ouvertes, toutes les ruches du secteur, il y en a pas mal, elles vont toutes arriver ici et en 24 heures, elles vont dégommer tout le miel.
Ah oui.
Donc si je stocke ici 4 ou 5 tonnes de miel dans les hausses, elles vont tout manger.
Ah oui.
Ça, c'est hyper rapide. Et c'est très très violent, quoi. Donc il faut bien que ce soit fermé, cet espace-là, et c'est important qu'il soit bien fermé aussi. Donc voilà, c'est juste la pièce tampon, on stocke, et puis on entrepose, et après, on bascule dans la zone d'extraction. Donc là, je prends un cadre. Alors c'est un beau cadre, c'est un vrai cadre bien rempli, il y en a quand même pas mal qui sont moins remplis, mais c'est plus joli pour montrer. Donc le cadre qui est rempli, on a envoyé les alvéoles tout à l'heure qui étaient vides, là sont pleines de miel, et sur les alvéoles, elles mettent une petite couche de cire, ça c'est la couche, c'est l'opercule. Ça leur permet de boucher les alvéoles, ça va permettre de conserver le miel pour elles en fait naturellement, et puis ça évite au miel de couler, tout simplement. Ça pour l'extraire du cadre, il faut absolument l'enlever. Ça a beau être tout fin et tout léger, c'est hyper efficace. On aura beau tourner l'extracteur très fort, ça sortira pas le miel du cadre. Donc la première étape, c'est d'enlever cette couche de cire. Donc on enlève la couche de cire. Alors, la couche de cire, juste je montre à la main. Alors on peut le faire, il y a plusieurs méthodes, hein, peu importe. Là, ça peut être avec un peigne. Vous voyez, c'est tout fin, c'est juste ça, avec collé de miel. Et là, tout de suite, le miel est disponible, donc on va pouvoir l'extraire. Heureusement, la machine c'est le même principe qu'un couteau comme celui-ci qu'on pourrait utiliser à la main. Ça ferait ça. Je fais jamais du couteau. Ah ouais, c'est insupportable. Hop, tac. C'est des opercules. Bon là, j'ai pas bien coupé. Ça enlève la cire et du coup ça permet d'extraire le miel. La machine fait pareil. Des fois très bien, des fois un peu moins bien, mais ça permet de passer du volume plus facilement. Donc ça désopercule. Ce qui tombe en dessous, le miel qui coule, et puis la cire d'opercule là qu'on voit, et qui, elle est pleine de miel. Hein. Il y a une grosse partie du miel qu'on va devoir extraire qui passe par ici. Le but c'est quand même de séparer le miel de la cire. On récupère le miel, On récupère aussi la cire, mais on sépare les deux. Nous, ce qu'on utilise, c'est une vis sans fin et qui va en fait permettre de presser. C'est comme de la presse, la cire, et du coup, ça extrait, ça comprime la cire pleine de miel contre la grille inox. Le miel coule dessous, on le voit, et puis la cire ressort ici. Un gros morceau là. Alors, ils sont bien collants de miel, mais globalement, c'est quasiment que de la cire. Ça, on le mettra aux abeilles, on le mettra sur un rocher dans la semaine, et les abeilles viendront lécher le miel qui est en trop. Donc ça, elles le récupèrent. Et nous, après, on refond ça. On fait des grosses fontes de cire. Ça permet de faire des blocs de cire et de refaire faire des feuilles de cire gaufrées qu'on vous montrait au tout début. Donc ça, c'est de l'or. C'est pas du miel, c'est de la cire, mais ça vaut de l'or. C'est que de la cire. Une fois que c'est désoperculé, on voit ça dans un extracteur. Alors là, c'est électrique, forcément. On va pas le faire à la main. Ça existe. Il suffit de tourner une manivelle. Le but pour extraire le miel, c'est la force centrifuge. On tourne de plus en plus vite. Et en fait, grâce à ça, le miel va venir s'expulser des alvéoles. Il va s'expulser contre la paroi de l'extracteur. Et vu qu'il est frais et qu'il est coulant, la gravité le rappelle à l'ordre. Hop, le miel coule le long des parois et va se retrouver dans le bac là-bas. Ça colle tout le temps. Tout le temps. Au début, doucement, ça suffit. Et après, je vous laisse vous approcher en regardant juste par le dessus. On voit tranquillement les gouttes de miel qui viennent se coller contre la paroi, voilà. Ça, c'est l'extraction. Les belles parois, en moyenne, la hausse sur une extraction, une miellée, si ça fait bien du miel, la moyenne, elle va être entre 12 et 13 kilos à la hausse.
Ah oui.
Extrait.
Oui. C'est très bien réfléchi. Tu recommandes une consommation de miel de combien?
Et 1 kilo par mois.
Un kilo par personne. Bien sûr.
C'est ce que les gros consommateurs de miel mangent. 1,5 kg par mois à eux seuls. Ouais. Ici, donc, c'est la suite. On prend juste un peu l'extraction. On remplit les fûts, un fût, 10 fûts, peu importe, en fonction de ce qu'on extrait comme miel. Le fût, pourquoi ? Ça permet de stocker beaucoup de miel. Ça prend pas de place, très peu de place. Enfin, si, ça prend de la place, mais pas tant que ça. Et puis, on ne peut pas mettre le miel en pot direct. Alors, ça peut se faire quand on n'en a pas trop. Nous, on évite parce que on passe d'un miel liquide qui est frais et on va le mettre tout de suite en pot. Le risque, c'est que dans un tout petit conditionnement, il cristallise très rapidement, un peu brutalement. Et du coup, ça fait des choses pas très jolies pour la vente et pour la consommation. Souvent, c'est ce qui fait le miel hyper dur. Là, on casse la cuillère, je comprends pas, machin. C'est du vrai miel, c'est peut-être du super miel. C'est juste que c'est mis en pot trop rapidement et du coup, il cristallise violemment dans le pot. Et donc, après, on n'arrive pas à le reprendre. De toute façon, vu la quantité qu'on sort en extraction à l'année, on va pas s'amuser à tout empoter d'un coup. C'est pas possible, ça sert à rien. On pourrait pas tout vendre. Enfin, bon, ce serait pas logique du tout. La logique, c'est on remplit des fûts, on ferme les fûts, on stocke les fûts et on les reprend comme on a envie, au moment où on en a envie. Il y a plusieurs possibilités quand on fait du miel, quand on produit du miel. On peut vendre le miel en fûts, en vrac, donc on l'expédie tel quel. Un fût, c'est 300 kg de miel. Et après, il y a le fût et puis sinon, il y a la mise en pot. La mise en pot, on peut vendre le pot en direct sur un marché, on peut vendre en épicerie, en circuit court, en magasin. En grande distribution aussi, ça peut se faire. Peu importe, en tout cas, si on le met en pot, il faut le mettre en pot. Donc c'est une étape supplémentaire. Soit on se contente du fût, soit on reprend le fût et on le met en pot. Alors, quand on extrait, le miel, il est frais, il est liquide, quel que soit le miel. À chaque fois, c'est ça. Et puis au bout de quelques jours ou de quelques semaines, en fonction des miels, qui ont tous des structures et qui vont vivre différemment dans le temps, le miel, en tout cas, quoi qu'il arrive, il va finir par cristalliser dans le fût. Donc, il va durcir dans le bidon. Du coup, pour le mettre en pot, bah, c'est râpé. On va pas le faire à la cuillère. Donc, pour qu'on puisse le faire avec quand même au moins une petite machine comme celle-ci, qui est quand même bien pratique, la pondeuseuse, il faut quand même que le miel soit suffisamment souple pour pouvoir le mettre en pot. Donc, on le chauffe. Alors, on chauffe le miel. On le brûle pas. On surchauffe pas le miel, c'est pas la peine. Le tout, c'est de l'assouplir suffisamment pour réussir à le malaxer un petit peu avec ça. Ça, c'est juste une hélice qui plonge dans le fût et qui malaxe de temps en temps. Qui là n'est pas en route, mais c'est la tuyau dedans. Mais c'est le juste but, c'est de défiger. Donc, je chauffais à minimum pour que le miel se ramollisse pour pouvoir le mettre en pot.
Souvent, on le ramollit un petit peu plus, on n'a pas trop le choix, on le ramollit un peu plus pour qu'il puisse bien mélanger. Et puis, on attend encore 2-3 jours. Il reprend vite en masse, de toute façon, naturellement, vu qu'on ne l'a pas chauffé trop fort. Il va reprendre un peu, et avant qu'il reprenne trop, sinon il faut recommencer, et ben on le met en pot, voilà, avec la pompe. Donc la pompe doseuse, c'est tout bête, hein. C'est juste qu'elle envoie exactement la quantité qu'on lui demande dans le pot, et sans que le miel file comme de votre cuillère, bah, vous en mettez partout là, sur la partie de votre pot. Là, il y a pas, normalement, sauf s'il y a des accidents, ça arrive quand même de temps en temps, mais normalement, il n'y a pas une goutte de miel en dehors du pot. Voilà, bah, ça demande de la manutention, ça prend vachement de temps quand même. Il faut une bonne demi-journée pour empoter un fût, et encore, faut pas traîner. À deux, ça va bien. On colle l'étiquette de date en dessous, on colle l'étiquette de miel dessus, on met en pot, on met la capsule, et ensuite on range les pots. Donc ça fait quand même de la manutention. Le miel, on le défige, on est obligé, excepté le miel d'acacia qui reste liquide, peut-être un miel ou deux qui vont rester liquides dans ce que nous on produit, mais la plupart du temps ils sont figés, ils sont cristallisés, donc on les défige. On les malaxe quasiment tous. Ça permet d'avoir un miel un peu plus crémeux dans le pot aussi. Ça aide un petit peu. C'est le seul travail du miel qu'on fait, hein. C'est quand même hyper light. Tant que le miel n'est pas mis en pot, il n'y a pas de date.
Et après, quand vous mettez en pot, c'est combien?
Je crois que c'est 16 mois ou un truc comme ça. Quand bien même le miel il fermenterait parce qu'il y a un petit peu trop d'eau, il est trop sensible ou il a chauffé et tout, au pire ça fait que fermenter quoi.
Si on veut faire fondre du miel qui a durci,
oui.
Au bain-marie,
ouais. Déjà c'est rapide. Hein. Pour un miel qui était souple et qui commence à cristalliser, bah, c'est plutôt bon signe. C'est qu'on l'a pas chauffé, ou très très peu. Il n'a pas été brûlé. Hein. La petite pipette, hein, lune de miel, hein, pour pas la citer, la pipette qu'on trouve depuis 40 ans en grande surface, ça peut être du miel. Maintenant on se demande, ça a été montré que c'est pas que du miel, c'est aussi du sirop. En plus de ça, c'est que c'est brûlé, c'est chauffé plusieurs fois de suite à très haute température. Et donc ça fait un produit qui est du sucre, qui n'a plus rien à voir avec du miel, et qui forcément ne pourra jamais cristalliser parce qu'il a été cramé. Quoi. Première ruche, c'était avec mon père il y a une vingtaine d'années. Il a pris 2 ruches dans le jardin parce qu'il voulait essayer. Puis après, quelques années plus tard, j'ai été travailler avec quelqu'un et ils étaient en expérimentation sur les abeilles, mais il y en a un technicien parmi eux qui s'occupait d'abeilles comme nous, on s'occupe d'abeilles. Pas pour faire du miel parce qu'il n'avait pas besoin de faire du miel pour vivre, mais qui s'occupait quand même d'abeilles et du coup là, ça a piqué direct. Ce qui me plaît, c'est que c'est toujours magique un peu, tu vois. C'est l'effervescence tout le temps. Alors pas toujours, mais quand même globalement. Elles te rendent toujours tout ce qu'on arrive à faire, parce qu'on fournit quand même beaucoup de travail. C'est elles qui font le miel, mais on fournit quand même beaucoup de travail. Et même quand t'as une période où ça se passe pas bien, où il fait pas beau, il n'y a pas de miel, à un moment donné, elles te le rendent, ça va. Elles vont forcément te rendre. Elles vont te faire du miel, tu l'attendais pas. Jour magique, ça. Après, ce qui me plaît, c'est l'élevage, la technique. J'aime bien rouler des canons aussi, ça j'adore ça. Donc ça se complète tout. Mais oui, elles ont leur petit caractère. Certaines plus ou moins que d'autres. Il y en a des frelons, là on commence à bien les voir, mais ça vient les stresser, mais si les ruches sont en bonne santé à l'intérieur, ça grince là-dessus. Après, si on en revient toujours aux faiblardes et aux autres, les 2-3 ruches faiblardes sur un rucher, elles vont être plus sensibles à se faire attaquer par le frelon.
Ça vous a plu, la visite?
Oui, très bien, très très bien. Ah ouais. C'est la première fois, l'an dernier on avait loupé, mais là, bien, moi je trouve que c'est instructif. Hein.
Vous avez déjà goûté ce miel?
Ah oui, ça fait plusieurs années déjà. Alors moi je prends le miel de printemps, puis de temps en temps je prends du miel de châtaignier pour mettre sur les crêpes. Oui, bah bien sûr, c'est bon.
Tous, ouais, j'ai pas de préférence. Dans le crème un petit peu, le crémeux un petit peu.
Le printemps là, c'est ça?
Ouais, celui qui est un petit peu blanc là, j'aime bien. Juste la gourmandise, hein, c'est parce qu'ils sont tous bons, hein. Surtout ceux de Guillaume.
La visite était très intéressante parce qu'on connaît Guillaume depuis qu'il est tout petit, donc on l'a vu évoluer. Mais je n'avais pas eu l'occasion l'année dernière de venir visiter. On connaît les lieux, mais pas la technique, et c'était formidable. Quant à mon miel préféré, moi j'aime beaucoup le miel au tilleul.
À la louche carrément.
Le matin, j'aime beaucoup sur les tartines, mais sinon bon, le crémeux, je les ai pratiquement tous goûtés. J'aime les miels un petit peu forts aussi, mais le miel au tilleul a quelque chose de très très particulier. Je le qualifierais de fort.
Voilà encore une belle journée passée dans le Marais Poitevin, qui a concilié l'utile et l'agréable. À bientôt pour vous y retrouver.
On vous embarque.
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 Culture.
On y était.
Concert.
On y était.
Sortie.
On y était.
Spectacle.
On y était.
Festival.
On y était.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
On vous embarque.